Bonjour à tous, je vous propose donc de voir de manière relativement rapide comment créer une application orientée données avec cette nouvelle technologie .NET Area Services, une Hello World application comme d'habitude. Donc je fais un nouveau projet de type Silverlight, je vais l'appeler Silverlight Application, on va l'appeler Gestion Client RIA par exemple. Voilà. Une nouveauté qu'on voit puisqu'on est en Silverlight 3 et qu'on utilise RIA, c'est cette notion de pouvoir se lier à la partie ASP.NET. Vous comprendrez mieux en lisant mon blog ou en regardant un petit peu la suite de la vidéo. Ça pourrait peut-être vous parler légèrement plus. Une fois qu'il aura fini de générer l'ensemble de ma solution, on s'aperçoit qu'il y a rien de nouveau, malgré le fait que je sois en Silverlight 3, j'ai toujours une partie serveur en ASP.NET qui héberge mon application et mon contrôle Silverlight. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une source de données à cette partie serveur, donc la fameuse base de données NerSwing. Donc pour ça, je drag and drop le fichier dans la partie app data. Donc voilà, j'ai une base de données qui est disponible. Comment générer une couche d'accès aux données à cette base de données-là? Donc, on va utiliser une nouvelle technologie qui s'appelle ADO.NET Entity Framework, qui est ici dans Data, et on va l'appeler Customers Model, puisqu'on va exposer des clients depuis cette base-là. Je l'ajoute. Il me demande est-ce que je veux le générer depuis une base de données? C'est le cas. Il a trouvé ma base de données qui était déjà disponible dans mon serveur. Je fais suivant. Il va scruter la base de données pour voir les différentes choses intéressantes à modéliser. Et là, nous, on va partir sur uniquement la table Customers, comme on le verra dans la suite de l'article où les étapes sont détaillées une à une. Une fois que je fais ça, en fait, il génère automatiquement pour moi des classes en C Sharp, puisque je suis actuellement dans un projet C Sharp, qui va modéliser finalement ma table. Donc j'aurais pu ajouter plusieurs tables, il aurait pu voir les liaisons entre elles, et j'aurais pu donc avoir ce code un peu de plus en plus étoffé qui est généré, et qui va s'occuper également de faire les mises à jour de données, les requêtes vers la base de données au final. Bref, j'ai une couche d'accès aux données qui était générée pour moi. Alors comment y accéder à cette couche côté client Silverlight? Donc comme je vous le disais dans l'article, il y a plusieurs façons de le faire. L'une d'entre elles classique qu'on voit ces derniers temps, c'est l'exposition à travers un service WCF qu'on définirait dans la partie serveur web, qui est ensuite référencé par la solution Silverlight, et on appelle les méthodes du service WCF en gérant l'asynchronisme. Il faut définir toute la couche d'accès aux données, enfin à notre logique métier ici. Si on a des règles de validation qu'on veut faire côté serveur, il faut les réécrire côté client. Bref, il y a du travail à faire. Ici, nous allons ajouter un nouvel élément qui s'appelle le domaine service class. On va l'appeler customers service. En gros, ça me génère pour moi cette logique d'exposition de service WCF d'une manière extrêmement simplifiée. Vous allez voir, il s'aperçoit que je n'ai aucune donnée pour l'instant. Alors pourquoi? Petite astuce, si ça vous arrive, il vous faut compiler au moins une fois la solution, après avoir généré votre modèle entity, sinon il ne le verra pas. Donc là, on peut recommencer. J'ajoute un nouvel élément à nouveau de type domaine service, donc on le rappelle customers service. Je l'ajoute. Cette fois-ci, il voit bien donc mon modèle entity framework qui est présent. Cette magie-là, je vous propose de le découvrir dans la partie de l'un de mes billets, donc la possibilité d'exposer côté client Silverlight cette logique-là d'accès aux données. Je vais décider d'exposer la table Customer et d'autoriser l'édition. Et je vais également cocher cette case où je définis des métadonnées. Pareil, je vous incite à voir le billet pour mieux comprendre à quoi tout cela sert. Une fois que je fais OK, il me génère à nouveau du code. On va le voir ici. Ce code, en fait, dérive d'un nouveau type qui est de type Link to Entities Domain Services, où j'y passe le type de mes entités que j'ai définies. Et j'ai différentes méthodes qui sont alors disponibles. GetCustomer qui me retourne un iQueryable, et on va voir l'intérêt en l'utilisant côté client. Une méthode pour insérer un nouvel enregistrement, mettre à jour un enregistrement et supprimer un enregistrement, ce qu'on appelle le fameux CRUD en anglais de manière classique. Alors comment utiliser ça maintenant de côté client? Alors première chose à faire, à nouveau une fois que vous avez fait tout ça, c'est reconstruire la solution pour que ce code-là soit analysé, et vous allez voir ce qui va se passer. Alors côté client, j'arrive dans ma solution Silverlight. On va faire une chose très simple pour commencer, c'est étendre le contrôle au maximum. Voilà. Et on va glisser ici une grille de données, donc le data grid. On va lui donner un petit nom. index de point name, je vais l'appeler grille client. Voilà. Et je vais dans le code behind en C sharp. Première chose qui devrait vous surprendre, je vais faire un using, donc j'ai appelé mon application gestion client area, partie web. En gros, je lui demande quelque part d'utiliser le code que j'ai défini côté serveur. Donc j'ai une expérience de développement comme si j'étais quasiment sur un seul tiers. Donc je vais utiliser quelque chose qui a été défini côté serveur et qui a été projeté automatiquement pour moi côté client, côté Silverlight. Ce que je vais utiliser dans cet ensemble-là, on avait vu tout à l'heure que j'ai défini quelque chose qui s'appelait le Customer Services, donc les services que je définissais côté serveur, automatiquement ils ont été transformés ici en Customer Context. Donc ça c'est la partie client, donc c'est le proxy que je vais utiliser côté client. Donc je vais l'appeler Context et je vais l'instancier. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir définir au niveau de ma grille de données que j'ai glissée un instant côté XAML, sur quoi elle va se binder, sur quel type de données elle doit travailler. Donc je vais récupérer pour ça mes enregistrements de type customers. Donc là je fais le binding de la grille de données avec les enregistrements qui m'intéressent. Reste à charger, à lancer l'opération de chargement qui est faite automatiquement pour moi de type asynchrone. Je fais context. Load customers. Donc vous avez vu, il y avait une méthode qui était getCustomer côté serveur qui est devenue loadCustomer de ce côté-ci. Et cette dernière est automatiquement asynchrone sans que j'aie la complexité de gérer les abonnements aux différents événements. J'ai terminé l'implémentation, je fais CTRL F5. Donc vous avez vu, en fait, c'est quasiment les seules lignes de code que j'ai écrites. J'ai écrit 3 lignes de code. Je lance l'application Silverlight. Elle va se connecter au serveur et dans une grille de données. Elle me charge l'ensemble des enregistrements. En ayant fait finalement très peu d'actions. Donc la productivité est bien au rendez-vous, j'ai l'ensemble des enregistrements. Et déjà la grille est plus ou moins fonctionnelle dans le sens où je peux déjà effectuer des tris côté client des sources des données que j'ai en mémoire. Donc vous allez me dire, là il charge l'ensemble des enregistrements qui sont dans la base côté Silverlight, il y a peu d'intérêt. Je vais vous montrer, c'est un des premiers intérêts du fait que j'ai un iQueryable de l'autre côté. C'est que je ne vais peut-être pas charger l'ensemble des enregistrements, je vais pouvoir faire une requête de ce côté-là. Donc pour cela, on a différents prototypages de la méthode qui était générée, dont un justement qui prend une requête. Donc on va utiliser celui-là. Donc on utilise pour cela customerContext.customersQuery.where. Et c'est là où on va indiquer que un client, on va faire une peut-être lambda expression, un client. Je sais pas, chercher uniquement sur le pays, donc country equals France. Voilà, il veut normalement un paramètre derrière, on va lui mettre nul, il devrait être relativement content avec ça dès que j'aurai mis la parenthèse au bon endroit. Voilà. Donc ce que je fais, c'est qu'une requête link ici, côté client Silverlight, indiquant à mon modèle d'accès aux données côté serveur que je veux uniquement les clients habitant en France. Et ce qui est important de noter ici, c'est que à aucun moment je récupère l'ensemble des enregistrements dans Silverlight et j'effectue le filtre côté Silverlight. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette requête link est sérialisée et envoyée au serveur web. Elle est traitée à ce moment-là sur le serveur web qui va faire l'opération vers la base de données pour récupérer l'ensemble des enregistrements qui sont à nouveau resérialisés et poussés au niveau de mon client Silverlight. Sauf que moi, j'ai vraiment rien à faire en tant que développeur de la couche client de présentation. Donc si je sauvegarde et je recompile et je lance l'ensemble, logiquement, si tout s'est bien passé, que je ne vous ai pas raconté de bêtises, on devrait avoir l'application Silverlight qui se relance avec notre grille de données, avec cette fois-ci nettement moins d'enregistrements. Voilà, uniquement les clients qui habitent en France. Donc on voit ici une partie de la productivité que nous apporte .NET Area Services. Elle apporte d'autres choses, comme la possibilité d'automatiquement de pousser vos règles de validation définies côté serveur dans le client Silverlight, comme la possibilité, lorsque vous allez saisir par exemple le pays, éviter de mettre des caractères comme ça qui n'ont pas de sens dans un pays, un caractère numérique, et automatiquement, sans faire l'aller-retour, s'occuper de faire la vérification pour vous. Bah pour cela, pour savoir comment on fait, découvrez la suite sur mon blog. À bientôt, au revoir.